Les Voix de service magazine, mercredi 17. Bonjour, je m'appelle Isabelle Falardeau, comme je me l'appelais déjà la semaine passée.
Oui, oui.
Et je suis entourée de Daniel Lachance et Serge Bradet. Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Et puis, aujourd'hui, bien, on va vous parler de plein de choses complètement différentes les unes des autres, à commencer par Daniel, vos sujets.
Oui, je vais vous parler de David Crosby, un article qui est paru dans la presse, qui a pour titre « David Crosby, le survivant ». Il ne s'agit pas d'un joueur de hockey, je sais qu'il y a un nom.
Ah, d'accord.
D'un joueur de hockey.
Moi, je trouve qu'il y a un joueur de chanteur ou de comédien.
Oui, ça ressemble plus à ça. Et dans la deuxième partie, je vais vous parler de Neil Young, qui envoie un petit message à Donald Trump dans son nouvel album. En ce premier anniversaire.
Mais oui, c'est vrai.
Ben oui, oui.
Ça fait un an déjà. Mm-hmm. Wow. Et Serge?
Oui, êtes-vous remis de votre changement d'heure?
Oui. Celui du printemps dernier.
Alors, je vais vous parler de ça, pourquoi on change l'heure. Mm. Et ensuite, je vais parler de ça en première partie. En deuxième partie, un autre sujet, l'autre rafle de bébé. Par rapport aux Autochtones.
Aux Autochtones, oui, c'est vrai.
Alors, c'est une rafle qui a eu lieu après la Deuxième Guerre mondiale.
Oui.
Je vais vous parler de ça. Et puis, comme l'article est assez court, je vais compléter avec la marche des femmes en politique au Québec. C'est un article qui est paru suite à l'élection de Valérie Plante, lundi, dans la presse.
Très intéressant, tout ça. Et moi, de mon côté, je vais vous parler d'une école au Manitoba, qui a décidé d'embrasser des perspectives autochtones pour son parcours scolaire. Et puis, un nouveau roman de Naomi Fontaine qui se passe à Ouachat, dans la nation Innu. Et là, je réalise que à chaque fois, je me mélange avec Crosby puis Cosby, Bill Cosby, Bing. Est-ce que c'est Crosby ou Cosby?
Bing, il y a Bill Cosby, il y a Bing Crosby,
Crosby
et
hein, c'est
il y a
ça.
David Crosby qui n'ont
ça, aucun très,
lien.
Très mélangeant. Alors, je ne sais pas par quoi vous voulez commencer, Daniel? Ah, c'est Serge qui commence.
Oh, parfait, merci, pas de problème.
Langue des signes aujourd'hui. Allez-y, parlez-nous de pourquoi on change l'heure.
Oui, eh bien, savez-vous que on a commencé à parler de ça en 1784.
Bah oui, je savais.
Vous savez, bon.
J'étais là.
Non, je pensais que c'était à la Première Guerre mondiale.
On a pensé à le faire, mais on ne l'a pas fait.
Il
semble que les tout premiers penseurs de cette pratique de changement d'heure auraient été Benjamin Franklin, qui en aurait effleuré l'idée. Il a effleuré l'idée, simplement.
Il est derrière plusieurs idées qui ont encore cours aujourd'hui, monsieur Franklin.
Ça, dans un essai en 1784. Puis un constructeur britannique, William Willett, aurait défendu cette proposition en 1907. On se rapproche.
OK, donc on est un peu plus loin.
Oui. Avant 1884, au Canada, on déterminait l'heure locale en faisant coïncider l'heure du midi avec le moment où le soleil atteignait son zénith. Puisque ce moment changeait d'est en ouest, l'heure locale variait considérablement d'une région à l'autre du pays.
Qu'est-ce qu'on faisait dans les régions où il y a 6 mois de noirceur, où on attendait, t'as jamais midi?
Cette situation n'a causé aucun problème jusqu'au jour où le train a permis de voyager rapidement sur de longues distances. Il est alors devenu impossible de faire fonctionner les horaires des trains à partir d'une variété d'heures locales différentes.
Donc, les fuseaux horaires n'existaient pas encore.
Non. On a donc songé à établir des fuseaux horaires uniformes. Mmh. C'est donc à partir de 1884 que le Canada a été réparti en 7 fuseaux horaires. Terre-Neuve, l'Atlantique, l'Est, le Centre, les Rocheuses, le Pacifique et celui du Yukon. Il y a un décalage de 5h30 entre le premier fuseau à l'Est, Terre-Neuve, et celui le plus à l'Ouest, le Yukon. En passant, mentionnons que c'est en 1973 que l'heure de Yukon s'unifia à celle du Pacifique, réduisant à 6 le nombre de fuseaux horaires et à 4h30 la différence d'est en ouest au Canada. Alors, qu'est-ce qui a amené l'adoption du changement d'heure? À peu près à cette même époque, on s'est mis à comparer le nombre d'heures d'ensoleillement avant midi par rapport à celui après-midi, tout en gardant en tête que la plupart des gens passent plus de temps éveillés après midi qu'avant. Donc, les heures pendant lesquelles le soleil, lui, alors que les gens dorment, sont en quelque sorte gaspillées. On a voulu rentabiliser ces heures de sommeil. On a donc pensé de déplacer une heure de clarté du matin au soir, de façon à ce que les gens, une fois leur journée de travail terminée, puissent profiter encore du beau temps. En réduisant d'une heure la période entre le coucher du soleil et le moment où l'on touche l'oreiller, et puisque la plupart des gens se lèvent généralement après le lever du soleil lorsque l'heure est avancée, on prévoyait ainsi économiser l'énergie. L'idée de l'heure avancée prenait naissance. Mais, il y a toujours un mais quelque part, cette pratique ne faisait pas l'affaire de tout le monde. Les agriculteurs ne trouvaient pas l'idée bien bonne, car l'avancement de l'heure les obligeait à commencer et à finir leur journée de travail une heure plus tôt par rapport à l'heure solaire. Quelles en seraient les conséquences? Les plantes ne pourraient pas être récoltées plus tôt, étant donné couvertes de rosée. Et les vaches, hein, les pauvres vaches? Pas question de les traire une heure après l'heure solaire à laquelle elles étaient habituées. Les fermiers devraient alors commencer leur journée de travail une heure plus tôt. En 1918, on décide d'ajouter des heures d'ensoleillement à la période estivale des Canadiens. C'est donc après la Première Guerre mondiale que les gouvernements des pays belligérants ont adopté l'avance de l'heure dans leurs territoires respectifs. En avançant l'heure, on profitait plus de l'éclairage naturel du soleil et on pouvait économiser sur l'électricité pour alors bénéficier d'un surplus d'énergie pour fabriquer les munitions ou autres fournitures militaires. Le Parlement du Canada a donc adopté la loi concernant l'utilisation de la lumière du jour. Cette loi accordait le pouvoir de rendre obligatoire l'avance de l'heure durant une période prescrite chaque année. On l'appliqua dès 1918, mais de vifs débats suivirent l'application de cette loi. Pour apaiser les disputes, le gouvernement ne l'appliqua pas en 1919 et durant les années de paix qui suivirent jusqu'en 1939. Mais comment a-t-on déterminé l'heure réglementaire au Québec? En 1920, une loi visant à fixer une heure réglementaire fut adoptée au Québec. Elle officialisait ainsi la séparation du Québec quant au fuseau horaire. C'est en 1924 que fut appliquée une loi québécoise concernant l'avance de l'heure. Ce sont les municipalités qui prenaient la décision quant à la période durant laquelle l'heure était avancée.
OK, donc c'était pas partout dans chaque ville,
ça non, fait... Non, vous allez voir des exemples assez tordants tout à l'heure. Oui. Ce sont les... elles procédaient par référendum et le gouvernement pouvait ou non décider de donner suite à la demande des municipalités. À titre d'information historique, Sherbrooke et Québec se prononcèrent en faveur de l'heure avancée. En 1928, une autre loi stipulait que l'heure avancée devait commencer le premier samedi de mai à minuit pour revenir à l'heure normale le dernier samedi de septembre à minuit. On a changé depuis ce temps-là. Cette année-là, ainsi que pendant celle qui suivit, il y eut des arrêts en conseil qui ont fixé des périodes différentes de l'avance de l'heure. En 1924, à Saint-Jérôme, on revenait à l'heure normale le 1er septembre, alors qu'à Kenogami, pas très loin de là, le retour se faisait le 5 octobre. Septembre 1929, il y avait une heure de différence entre Montréal et Saint-Jérôme pendant quelques semaines. Évidemment, les communications n'étaient pas aussi fréquentes qu'aujourd'hui, c'est sûr.
Ça, c'est vrai.
Mais oui. Alors, ça devait déranger un peu moins la vie sociale. Quoi que si on vous invitait pour souper à Saint-Jérôme, vous partiez de Montréal, il fallait vous entendre sur l'heure, tu sais. Une autre page de l'histoire du temps a été tournée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le 21 septembre 1940, le gouvernement fédéral instaura l'heure avancée à l'année dans les régions québécoises et ontariennes où l'heure était avancée durant l'été. Alors, il y a quand même des... on parle ici, le 15 mars 1966, le moment de changer montre et horloge se fait à 2 heures du matin plutôt qu'à minuit et une minute à travers tout le Canada et les États-Unis. Pourquoi?
La fermeture des bars.
Non.
Pour éviter la... du matin, tout à coup, il est 3 heures, on ferme.
Pour éviter la confusion des jours. Par exemple, le dimanche, minuit une minute, devenait samedi, minuit une, et vice-versa. Les dates de naissance devenaient confuses.
OK.
L'âge de la majorité pouvait arriver deux fois. Une première fois avant le changement d'heure, puis une seconde après.
Ah, parce que c'est
après.
À minuit qu'on détermine.
OK, donc il fallait s'éloigner de l'heure de minuit.
Oui, alors imaginez si vous aviez quelque chose était légal à 18 ans, puis okay. Il n'était pas avant.
Exemple, tu fais une descente de police à minuit et une, le gars a 17 ans, mais il vient d'avoir 18, mais une heure après, il l'a pu. Parce que là...
Ensuite, l'expiration des assurances causait de la confusion lors des dommages. T'arrives à quelle heure? Ça dérange moins les gens et moins de gens en pleine nuit. Mm-hmm. Alors, quand c'est en plein milieu de la nuit, on dort et on se réveille le matin, puis c'est chose faite. Mm-hmm. Au point de vue humain, physiologique, ça entraînerait des troubles du sommeil, de l'appétit, de la capacité de travail, de l'humeur, surtout au printemps. Ça affecterait surtout les personnes âgées, malades et les enfants.
Wow.
Mais...
Non, vous vous sentez visé, Daniel?
Non, non.
Même si la période de transition dure environ 3 semaines, ça, je trouve ça... Il me semble que ça...
Mais c'est comme le décalage horaire, ça affecte... Parce que c'est un décalage horaire dans les faits. Mais ça dépend, ça affecte les différentes personnes de différentes façons.
Mais moi, le printemps dernier, j'en ai vécu un qui a duré 4 semaines parce que je suis allé au Mexique fin mars. On venait de changer l'heure 1 semaine avant mon départ. Je suis arrivé là-bas, il y avait 2 semaines de décalage horaire. Et 1 semaine après, eux ont changé l'heure. Et une autre semaine après, je revenais ici, donc en cours.
À chaque semaine, je changeais d'heure. Ouais, ça, c'est...
Pendant 4 semaines.
19% des médecins font état d'une augmentation de la consommation de médicaments et de tranquillisants, mais aucune étude scientifique le prouve. Obligation de régler l'heure intégrée dans de nombreux équipements informatiques, électroniques, électroménagers, audiovisuels, systèmes d'alarme. Problème d'adaptation observé dans les hôpitaux, les garderies, les écoles et les centres pour personnes âgées. Ah, voilà. T'as un petit résumé de ce que...
Mais merci beaucoup. C'est... À chaque année, le débat reprend. Ouais. Est-ce qu'on devrait arrêter de changer l'heure?
Et... On est toujours mélangé. Je vais-tu me lever 1 heure plus tôt ou 1 heure plus tard?
Puis là, de nos jours, avec les lumières d'ailes qui prennent presque pas d'énergie, on a-tu vraiment besoin d'économiser?
On devrait rester à la même heure toute l'année. Mais est-ce qu'on resterait à l'heure?
Avancée ou normale?
Ça, c'est un autre débat complètement. L'heure normale, c'est l'heure actuellement. Là.
Actuellement, c'est l'heure normale.
Après, on va être à l'heure avancée.
On va avancer ça. Avancée de l'Est, l'heure normale de l'Est.
C'est à moi et je vais vous parler d'heures autochtones. En fait, non, c'est la même heure. Enfin, je ne sais pas si on avance l'heure au Manitoba. Je sais qu'il y a Manitoba, Saskatchewan, on a parlé cette semaine. Il y en a un des deux qui ne change pas l'heure. Là, non, puis il y a une ville qui est à mi-chemin entre les deux. Puis ça fait. Si on travaille au Manitoba puis on habite en Saskatchewan, il faut vérifier à quelle heure justement on va souper puis à quelle heure on commence le bureau. Alors moi, je vous parle de l'école Saint-Lazare qui intègre les perspectives autochtones au cursus scolaire. C'est un article publié le 3 novembre sur le site de Ici Manitoba, donc Radio-Canada Manitoba, et signé Marie-Lise Mormina. Dans une vallée en plein milieu des prairies, à 360 km au nord-ouest de Winnipeg, se cache un château fort de l'éducation en français. C'est l'école Saint-Lazare. Avec son nouveau projet pilote, Partons à la découverte de nos racines, l'établissement scolaire se veut précurseur d'une éducation interdisciplinaire, interculturelle et intergénérationnelle. L'école s'est donnée pour mission de faire renouer les jeunes avec l'héritage métis de Saint-Lazare, en appliquant des perspectives autochtones. L'approche utilisée est innovatrice et se distingue du système d'éducation canadien. Les méthodes pédagogiques autochtones misent sur une approche holistique prônant le bien-être et l'estime personnelle. Et ça, c'est l'artiste, pédagogue et collaboratrice du projet pilote Dolores Contré-Miguanz qui nous l'explique. C'est une manière circulaire de fonctionner, qui tient compte de l'esprit de l'enfant, de son corps, de ses émotions, de son côté affectif, de sa construction identitaire et de la manière dont il comprend les choses. Si vous avez connu des enfants qui ont fréquenté l'école dernièrement, vous reconnaissez absolument rien. Enfin, l'école au Québec traditionnelle, là, ça ne ressemble pas du tout à ça, malheureusement. Cette approche diffère donc du système éducatif canadien plutôt linéaire et séquentiel. Hein? On favorise souvent le cognitif. Évidemment, c'est ça qu'on veut. On veut que l'enfant apprenne des choses, mais il ne faut pas privilégier seulement l'apprentissage au détriment de... ce qu'on veut faire apprendre au détriment de comment on veut le faire apprendre. Alors là, on favorise souvent le cognitif, le temps et les apprentissages sont divisés en séquences. Ce fonctionnement devient autant stressant pour les enseignants que pour les élèves. C'est Dolores Contré-Miguanz qui nous dit ça. Les Autochtones utilisent d'abord les signes, le langage non-verbal et les symboles pour s'exprimer. Les symboles sont révélateurs pour les jeunes. Ils peuvent communiquer ce que l'écriture n'est parfois pas capable de faire, surtout chez les enfants. Et là, l'article est accompagné du dessin de la jeune Andrix Tremblay-Felsing. On peut voir, c'est comme une spirale bleue avec des éclairs autour. Et en dessous, il y a une espèce de croix verte. Alors, l'élève, c'est lors d'un exercice, l'artiste et pédagogue a invité les élèves à créer leur propre symbole et l'élève, Andrix Tremblay-Felsing, a expliqué ce que son dessin voulait dire. Même quand il y a des éclairs, il y a encore de l'harmonie. Les éclairs veulent dire qu'une tempête vient. La spirale veut dire l'infini, alors que le croisement, c'est l'harmonie. Ah. Alors, c'est en même temps une façon d'amener les jeunes à se poser des questions sur ce que veulent dire les symboles, puis sur comment exprimer certaines choses qui leur tiennent à cœur. Alors, ça, je trouve ça intéressant. Le projet pilote vise également à rendre les jeunes plus sensibles aux éléments de la nature et aux liens qu'ils peuvent tisser avec celle-ci. Les êtres vivants ont tous une valeur égale, explique Dolores Contrimiguanz. Il faut tenir compte des conséquences à venir pour les 7 prochaines générations. On répète souvent hein, que c'est une des choses que les Premières Nations ont à nous apprendre, là, penser aux 7 prochaines générations. Cette approche holistique est pleine d'espoir pour la communauté et même pour une société meilleure, selon elle. Face aux conflits actuels des sociétés, un nouvel humanisme solidaire émerge et nous amène à préparer des personnes et des groupes citoyens conscients. Depuis septembre, professeurs, personnels et élèves sont en période d'apprentissage afin d'intégrer et d'appliquer ces méthodes pédagogiques autochtones. L'École Saint-Lazare est toutefois déjà familière avec la culture autochtone et métisse. Celles-ci sont au programme scolaire depuis quelque temps déjà, nous explique le directeur par intérim Jérémy Laferrière, qui nous dit aussi « On veut vraiment que nos élèves sachent que cette culture existe et qu'elle est très riche. » La communauté a pris racine en collaborant avec les Autochtones lors de la traite des fourrures. L'initiative découle d'un projet commun avec la division scolaire franco-manitobaine, DSFM, étant au stade de l'essai. Le projet pourrait se propager à d'autres écoles de la DSFM dans les prochaines années.
Are on the road must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. Your elders grew high, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by. Them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh.
Bien, on vient d'entendre Teach Your Children de la formation Crosby, Stills, Nash & Young. Et d'ailleurs, je vais vous parler d'un des membres, David Crosby. En passant, je ne vais pas lancer un débat sur la musique country, mais Cette chanson-là, ça sonne très, très country avec la pédale street guitar, tout ça. Ce qui différencie pour moi le folk ou le country, c'est le vocal. Si vous avez déjà remarqué, souvent, la musique country, c'est chanté d'une façon un petit peu plus, une voix nasillarde, tout ça. Oui. Et là, on écoute les harmonies vocales.
Ça, c'est comme du country avec des belles harmonies. Donc, ça, on appelle ça du folk, c'est ça?
Puis là, je veux pas dénigrer le country pour ça, mais c'est quand même la différence. Et là, les voix sonnent pas de la même façon. Bon, voilà, c'était
ma
petite parenthèse avant de commencer. Donc, un article que j'ai pris dans la presse du 6 novembre, un article de Alain de Repentigny. David Crosby a vu disparaître un bon nombre de ses amis musiciens ces dernières années. Pourtant, il est toujours là, plus productif que jamais, lui qui a eu tous les problèmes de santé qu'on puisse imaginer et qui a consommé plus de drogue que les plus défoncés de ses collègues. « Je suis chanceux, j'imagine », dit Crosby au téléphone depuis Des Moines en Iowa, où s'arrêtait mercredi dernier la tournée qui l'amènera au théâtre Maisonneuve ce vendredi. À cette étape de ma vie, je perds des amis pas mal souvent et c'est difficile à digérer, mais il n'y a rien qu'on puisse y faire, alors on continue. Crosby pouffe aussitôt d'un rire qui témoigne du plaisir bien réel qu'il éprouve à jouer de la musique à 76 ans. Les rigueurs de la vie de tournée, la mauvaise bouffe, les nuitées à l'hôtel et la solitude loin de la famille, il s'en passerait bien. Oui, la vie a été bonne malgré tout pour David Crosby. Ses retrouvailles improbables avec son fils James Raymond tiennent du conte de fées. Crosby avait donné son fils en adoption à sa naissance en 1962.
Ah oui.
Et fiston, qui ne savait rien de ses parents biologiques, a retrouvé son paternel alors que celui-ci s'apprêtait à subir une greffe du foie au début des années 1990. Crosby avait désormais un fils dans la trentaine qui était lui aussi un musicien accompli. L'histoire ne dit pas de quelle façon ils se sont rencontrés.
Non, est-ce qu'il lui a donné un bout de foie?
Je
ne
sais pas s'il a fait un appel à tous pour avoir un foie. Wow. En tout cas, c'est quand même une drôle d'histoire. Papa et fiston sont deux fans avoués de Steely Dan et David Crosby reconnaît d'emblée que ça s'entend sur « She's Got to Be Somewhere », la première pièce de son nouvel album. Il reprend également sur cet album la chanson « Amelia » qu'avait enregistrée son ami Joni Mitchell sur son album « Jazz Hygira » en 1976. En passant, juste une petite parenthèse, Joni Mitchell, c'est elle qui avait composé la chanson « Woodstock » qui a été ensuite reprise par Crosby, Stills, Nash & Young et qui est devenue un petit peu le thème du film « Woodstock » qui est paru environ un an après le festival. On l'a peut-être oublié, mais c'est Crosby lui-même qui avait réalisé le premier album de la grande artiste canadienne « Song to a Seagull » en 1968. L'album « Blue » de Joni est probablement l'un des meilleurs disques jamais enregistrés. Je ne vois pas d'autre disque aussi bon, sinon peut-être « Revolver » des Beatles. « Joni est probablement la meilleure d'entre nous tous », ajoute Crosby en faisant référence à la communauté d'auteurs-compositeurs avec lesquels il a tissé des liens étroits, et qui comprenait notamment Jackson Browne, James Taylor, Paul Simon, Paul McCartney, ainsi que, évidemment, Stephen Stills, Graham Nash et Neil Young, de Crosby, Stills, Nash & Young. Crosby explique en partie sa poussée de créativité récente, 3 albums en 4 ans et un 4e en préparation, pardon, par la séparation de Crosby, Stills & Nash ou avec ou sans Young, parce qu'il y a eu longtemps Crosby, Stills & Nash, et à un moment donné, c'est devenu Crosby, avec Stills, Young. Nash & Young, et c'est redevenu. Neil Young était un petit peu in and out.
Volatile.
Oui. Ce fut une très bonne chose, dit-il. Quand on a commencé, on s'aimait les uns les autres et on appréciait beaucoup la musique de chacun. Mais après 40 ans... ça a régressé au point où on faisait juste partir la machine à boucan et jouer nos hits. Aujourd'hui, je ne fais plus d'argent, mais je fais de la très bonne musique.
C'est une belle image.
Ouais.
On part la machine à boucan.
Ouais, ça devient un peu ça, je pense, après plusieurs années. L'an dernier, Graham Nash a pourfendu David Crosby dans une interview accordée à un magazine néerlandais. « J'ai sauvé sa peau pendant 45 ans et il m'a traité comme de la merde », a dit Nash, reprochant notamment à Crosby d'avoir irrité Neil Young en médisant sur sa conjointe, l'actrice Daryl Hannah. Donc, on voit que ça devient un peu comme des vieux couples, un vieux band. Là.
Ah oui, c'est vraiment ça.
On se bitch, puis... Les deux hommes n'ont pas fait la paix depuis, dit Crosby, qui n'écarte pas pour autant la possibilité de retrouvailles avec Stills, Nash et Young, qui, il est vrai, ont aujourd'hui une motivation commune, prendre la parole contre Donald Trump. Ça, je vais revenir tantôt en deuxième partie.
La valeur unificatrice de Donald Trump.
C'est
oh,
ouais. Ouais, c'est quand même un gars assez rassembleur.
Il ne faut pas lui enlever ça.
Après un an, il est très rassembleur.
Oui, c'est ça.
Donc, je ne compte pas là-dessus, mais il ne faut jamais dire jamais, répond Crosby. Parfois, la musique est plus forte que les égos et on se serre les coudes. Si Neil voulait réunir Crosby, Stills, Nash & Young, ce dont je doute, je le ferais. Je n'ai pas de problème avec ces gars-là, je les aime tous et je suis fier des très bons disques que nous avons faits ensemble. Par contre, on ne s'entend pas vraiment présentement et c'est important pour moi d'aller de l'avant et d'être heureux. Mais s'il m'appelait pour reformer Crosby, Stills, Nash & Young, je n'hésiterais pas une seconde. Donc, David Crosby sera au Théâtre Maisonneuve ce vendredi, le 10 novembre à 20h.
Alors, une nouvelle application mobile a été lancée cet automne pour venir en aide aux familles de femmes et filles autochtones disparues et assassinées. L'application Taken Knowledge Keeper permet aux usagers de créer des albums avec les détails de leurs proches ou encore fournit une trousse à outils en cas de disparition d'une personne. Donc, créer peut-être un album avant, au cas où malheureusement la disparition se produirait. Elle offre aussi des ressources de soutien émotionnel et spirituel. Cet outil, développé par la compagnie de production Eagle Vision, basée à Winnipeg, a été élaboré en collaboration avec les créateurs de la série télévisée Taken, qui se penche sur des cas de meurtre et disparition de femmes autochtones. Des familles de victimes et organismes ont également participé à la mise en place de ce programme. L'application est disponible gratuitement sur l'App Store d'Apple et moi, j'ai vérifié pour voir si c'était disponible aussi sur Android, effectivement sur Google Play. Si votre petit machin, c'est comme moi, un machin Android, vous pouvez aussi vous procurer gratuitement l'application qui s'appelle, je le répète, Taken Knowledge Keeper. Gardien du savoir. De la personne disparue, Taken. Mm-hmm. Voilà. Serge.
Oui, Ambroise Bierce, B-I-R-C-E. Je ne connais pas du tout.
Mais il a dit...
La politesse, c'est la forme la plus acceptable de l'hypocrisie.
Ah, c'est
bien. Oui, ensuite, Georges Courteline, auteur de théâtre.
Oui.
L'homme n'est pas fait pour travailler. La preuve, c'est que ça le fatigue. Il a dit aussi, si ma femme doit être veuve un jour, j'aimerais mieux que ce soit de mon vivant.
Je ne sais pas trop comment l'interpréter. Bon, en tout cas, c'est un peu comme ça que va se terminer la première partie. Okay. Gardez-en pour la deuxième.
J'en ai plein.
Parfait. Alors, on vous revient après une pause de quelques instants.
Thank you. searching for a heart of gold. You keep me searching and I'm growing old. Keep me searching for
C'était Neil Young, que tout le monde a probablement reconnu, un ancien de la formation Crosby, Stills, Nash & Young. Et Neil Young qui pique Donald Trump sur son dernier album, apparemment, un autre article que j'ai pris dans la presse, et qui s'appelle justement « Neil Young pique Donald Trump sur son album ».
Quel titre, lien. Oui, voilà.
Les années passent, mais sa flamme militante brûle toujours. Le géant canadien du folk rock, Neil Young, a accompagné vendredi l'annonce de la sortie de son 39e album d'une pique à l'adresse de Donald Trump. L'Amérique n'a pas besoin qu'on lui rende sa grandeur. Parce que le slogan...
Oui, c'est « Make America Great Again ».
Le rocker de 71 ans retrouve le groupe Promise of the Real pour The Visitor, son album, qui sortira le 1er décembre. Lettre d'amour à une certaine idée des États-Unis, son premier titre, Already Great, claque en réponse au fameux slogan de campagne du président américain Make America Great Again. Sur fond de guitare rugueuse et de piano, Neil Young glisse un I'm Canadian, by the way, and I love the USA. En français, au fait, je suis Canadien et j'aime les États-Unis, saluant la liberté qu'il y a trouvée. Vous êtes déjà grand, vous êtes la terre promise, vous êtes la main tendue. You're already great, you're the promised land, you're the helping hand. Poursuit le musicien avant de conclure avec des voix scandant « Whose streets? Our streets. » À qui sont les rues? Les rues sont à nous.
À qui est la rue? À nous, la
ouais,
rue.
Oui, le mot d'ordre souvent entendu aux États-Unis dans les manifestations du mouvement Black Lives Matter qui dénonce les violences policières contre les Noirs. La politique et Neil Young, c'est l'histoire d'une longue passion. Son hymne « Rocking in the Free World », que vous avez sûrement déjà entendu aussi, sorti en 1989, dénonçait les politiques du président américain républicain de l'époque, George H.W. Bush, de la misère à le dire, celui-là, George Bush père, finalement, mais avait rapidement été repris en étendard en Europe de l'Est lorsque le communisme s'effondrait. Donald Trump avait aussi repris « Rocking in the Free World » pendant sa campagne pour la Maison-Blanche, indignant Neil Young, comme plusieurs artistes progressistes outrés de voir leurs chansons utilisées par le candidat populiste de droite. Profondément influencé par Neil Young, « Promise of the Real » est mené par le guitariste et chanteur Lucas Nelson, le fils d'un grand nom de la country américaine, Willie Nelson. Ils avaient déjà fait équipe en 2015 pour l'album The Monsanto Years, sur lequel Neil Young, écologiste convaincu, dénonçait le géant de l'agrochimie et ses semences génétiquement modifiées. Cette fin d'année est particulièrement riche en sorties pour Neil Young, qui avait présenté en septembre Hitchhiker, un disque enregistré en une nuit en 1976, mais jamais officiellement présenté jusque-là, même si certains de ses titres étaient apparus sur d'autres disques. Et c'est ça, Neil Young a fait partie de Crosby, Stills, Nash & Young à quelques reprises, comme on disait tantôt, et il fait partie du groupe. La première fois, c'était lors du concert Woodstock. Le groupe Crosby, Stills & Nash existait déjà, ils venaient de sortir un album. Ah. Ils ont été invités à Woodstock.
Et il s'est joint à eux sur scène.
C'est ça, il s'est joint à eux sur scène, et suite à ça, ils ont fait un album ensemble qui est devenu célèbre, l'album Déjà Vu.
Oui, oui,
je
ne
sais pas
comment
ils prononcent eux en anglais, mais
déjà
ça c'est
vu.
Déjà Vu. Et plusieurs pièces très connues qui sont sorties de cet album-là. Et je vais en profiter pendant que j'ai le micro pour vous faire une petite annonce.
Oh.
On a parlé souvent...
Est-ce que vous vous joignez à ce que ça va être Crosby, Stills, Nash,
non,
Nash and la chance?
C'est pas une annonce qui me concerne, moi. C'est une annonce. On a parlé souvent dernièrement du groupe The Tragically Hip et de Gord Downie. Et j'avais lu il y a quelques semaines un article sur le documentaire de leur tournée. Le documentaire qui s'appelle Long Time Running. Mm-hmm. Et bien, ceux que ça intéresse, le documentaire va passer sur les ondes de CTV. Toujours un peu mêlé à la télévision. C'est le réseau CTV, dans le fond. Donc, vous pouvez le prendre sur CFCF Channel 12.
C'est 12, c'est ça, le 12.
Le 12 qu'on prend au 7 ou au 607 sur, sur CTV.
D'accord.
Dimanche, le 12 novembre, à 20h, Long Time Running, documentaire sur The Tragically Hip.
Merci beaucoup, Daniel.
Keep on rocking in the free world.
Et dans un tout autre ordre d'idées, Serge.
Mm-hmm. Oui, un article de la Presse Plus de dimanche, intitulé « L'autre rafle de bébé », un article de Valérie Andrews, qui est directrice générale d'Origins Canada, et de Art Eggleton, qui est membre du Sénat du Canada. L'annonce faite par le gouvernement fédéral d'un règlement de 800 millions de dollars pour les survivants de la rafle des années 60, ces enfants autochtones qui ont été retirés de leur réserve et de leur famille et placés dans des foyers non autochtones, est un pas dans la bonne direction pour promouvoir la reconnaissance et la guérison des personnes touchées. Cependant, une autre rafle doit être reconnue et elle ne concerne pas les personnes autochtones. Un grand nombre de Canadiens ne savent pas qu'au cours des décennies ayant immédiatement suivi la fin de la guerre de la Deuxième Guerre mondiale, les gouvernements fédéral et provinciaux ont également financé des politiques d'adoption draconienne qui ont nui aux mères célibataires non autochtones. En Australie, en Nouvelle-Zélande, en Irlande, au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada, ces mères, des centaines de milliers, ont été systématiquement contraintes ou forcées de donner leur bébé en adoption simplement en raison de leur état matrimonial. Au Canada, plus de 300 000 mères célibataires ont été touchées par cette mesure entre 1940 et 1970.
C'est terrible, ça.
Ouais. Ces femmes étaient logées dans des maisons maternelles ou des foyers pour mères célibataires financés par le gouvernement et gérés par les ordres religieux traditionnels. Et il était peu probable qu'une mère célibataire en reparte avec son bébé, car le taux d'adoption pouvait atteindre 96 % dans ces établissements. Ouais. Voilà qui contraste avec la situation actuelle. Actuellement, seulement 2 % des mères célibataires donnent leur bébé en adoption.
Ah oui.
Et de nos jours, oui, les temps ont changé, mais la douleur perdure. Pendant leur grossesse, les mères célibataires étaient confinées de 3 à 5 mois jusqu'à l'accouchement. Dans ces foyers régnaient les punitions et l'humiliation. Avant d'être pardonnées pour le péché de la grossesse hors mariage, les femmes devaient abandonner leur bébé à l'adoption. Les femmes ayant été confinées dans les maisons maternelles canadiennes déclarent avoir été victimes de violences physiques, sexuelles, psychologiques et émotionnelles. Un beau cocktail.
Eh oui.
Les mères de ces foyers étaient régulièrement emmenées à l'hôpital pour accoucher seules, leur dossier indiquant « Mademoiselle » ou « BPA »,« Bébé pour adoption ». Ce qui enclenchait les protocoles hospitaliers pour les mères célibataires avant même la signature du formulaire de consentement. Mmh. Les mères célibataires étaient séparées des mères mariées, mises sous médication trop faible ou trop forte, et attachées à la table d'accouchement.
Oh.
Ces femmes disent avoir subi un traitement punitif et cruel. Souvent, dans la salle d'accouchement, on empêchait les mères d'avoir un contact visuel avec leur bébé en utilisant des draps, des oreillers, des miroirs ou d'autres moyens afin d'éviter la création d'un lien d'attachement, ignorant le fait qu'elles étaient déjà liées au bébé qu'elles avaient porté pendant 9 mois,
ben oui,
évidemment. Ces mères ont été systématiquement privées du droit légal de voir, de tenir et de nourrir leur bébé après la naissance. On a dit à certaines d'entre elles que leur bébé était mort. Ce n'est que des années plus tard, lorsque celui-ci a tenté de les retrouver, qu'elles ont appris qu'il avait été adopté. D'autres ne savent toujours pas si elles ont mis au monde un garçon ou une fille. D'ailleurs, une petite parenthèse, dans la série Mémoire vive, là, quand ça a commencé, c'est ça, la docteure Hamelin, qui est jouée par la comédienne Marie-Thérèse Fortin. Et on lui a dit que l'enfant qu'elle avait eu était mort.
Ah oui,
et elle a su plus tard, 25 ans plus tard. Selon ces mères, on a recours aux menaces, à la peur, à la contrainte, aux mensonges, aux ruses et même à la force physique pour obtenir leur consentement non éclairé. Sans les conseils d'un avocat, elles sont nombreuses à avoir signé le consentement seules, parfois en présence d'un ou deux travailleurs sociaux. En règle générale, les mères ne recevaient pas de copie du document signé et n'étaient pas informées de leur droit de révocation. Les mères ont été retournées dans la communauté immédiatement après la naissance, à peine remises de l'accouchement, en état de choc, et traumatisées par le traitement brutal et la perte de leur bébé. On leur a dit de garder le secret, de ne jamais en parler à leur futur mari, et elles n'ont eu droit à aucune consultation ni à aucun soin après la naissance. Bon nombre de ces mères continuent de vivre avec l'identité stigmatisée d'une mère célibataire et continuent de garder le secret. Tout comme les survivants de la rafle des années 60, les Autochtones, ces mères ont besoin de reconnaissance et de guérison. L'Australie les a reconnues il y a quelques années en soumettant des recommandations, notamment l'attribution de fonds à la guérison, l'obligation de rendre les dossiers d'adoption transparents, la promotion de la sensibilisation du public et la présentation d'excuses nationales. Il est temps que le Canada en fasse autant. Petite note, Origin Canada, dont je parlais au début, est un organisme fédéral sans but lucratif soutenant les personnes séparées par adoption.
Merci, Serge. Eh bien, moi, je vais encore une fois complètement changer de sujet, peut-être quelque chose d'un peu plus positif. Sur Ici Bas-Saint-Laurent, j'ai pris un article intitulé « Naomi Fontaine, la force des Innus » paru le 5 novembre et signé Julie Tremblay. Une jeune professeure de français retourne dans sa réserve natale, Ouachat, 15 ans après l'avoir quittée. D'abord considérée comme une étrangère, elle finit par y faire sa place. Dans son dernier roman « Manikanetish », Naomi Fontaine raconte l'évolution de la relation entre cette jeune femme et les adultes en train de naître qu'elle apprend à côtoyer au quotidien. Naomi Fontaine ne s'en cache pas, elle s'est largement inspirée de son expérience à Ouachat pour écrire Manikanetish. Partie de Québec pour enseigner le français au secondaire, c'est dans un monde très différent de celui qu'elle connaissait qu'elle est tombée, dans une communauté où l'exil se trouve à 8 heures en voiture et il a la peau pâle. Même si la jeune femme est fébrile à l'idée de rencontrer ses élèves à qui elle apprend le monde et comment on le regarde, difficile d'établir le contact. Bâtir une relation et se faire accepter dans une nouvelle communauté prend du temps, explique Naomi Fontaine, même lorsqu'on a les traits d'une Innu. On ne peut entrer comme on veut dans une communauté. Qu'on soit Innu ou qu'on soit blanc, je pense qu'il y a un processus qui doit être fait pour apprendre à vivre ensemble. C'est faisable avec la bonne attitude. Et la bonne attitude, c'est l'humilité. Naomi Fontaine raconte une histoire où la mort est omniprésente, mais elle voulait surtout souligner la force de caractère des Innus dont elle s'est inspirée. L'auteur explique qu'il y en a des difficultés dans les réserves autochtones, mais ce qu'elle voulait qu'on voit, c'est surtout la force qui émane des personnages. J'ai réalisé que ces élèves-là, pour qu'ils soient rendus où ils sont rendus, ils sont forts, persévérants, ce sont des jeunes extrêmement résilients, et c'est pour ça surtout que je voulais écrire ce roman-là. Naomi Fontaine leur rend un bel hommage dans Manikanetish. Elle démontre aussi que les liens se tissent avec patience et mènent parfois à des moments magiques, à ces moments magiques où la communion entre des êtres a priori opposés se fait réellement et simplement. Et l'article se termine avec une citation tirée du roman. « Je voulais croire, j'avais besoin de croire, que quelque chose est né ce matin-là, entre eux et moi. Quelque chose de fragile, sans doute. Du moins, quelque chose de vrai, comme un début de confiance. » Daniel.
Oui, un article que j'ai trouvé dans le Figaro qui a attiré mon attention. Anxiété, panique, dépression, les musiciens plus exposés que les autres.
Ah.
C'est drôle, hein? On aurait pensé que c'était peut-être les policiers, les médecins ou je sais pas quoi. J'étais bien content de trouver ça.
Ou les dentistes.
Les dentistes.
Les dentistes, pourquoi? Apparemment.
Oui,
j'avais lu ça, moi, il y a quelques années. Là, je pense que c'était la profession où il y avait le plus haut taux de suicide.
Ah, ouais.
Ben ça, peut-être que justement les musiciens sont plus déprimés, mais ne se suicident pas autant parce qu'ils réussissent à exprimer par leur art.
Les musiciens en arrachent plus que les dentistes, d'après moi. Les professionnels de la musique auraient 3 fois plus de chances d'être atteints de dépression. C'est le résultat plutôt inattendu d'une enquête de l'université londonienne de Westminster. La précarité des carrières artistiques contribue à accentuer ce phénomène. La musique adoucit les mœurs, c'est connu. Elle trouble aussi les musiciens. Une étude réalisée par l'University of Westminster est arrivée à cette conclusion plutôt surprenante. un sondage réalisé auprès de 2200 musiciens britanniques âgés de 18 à 55 ans et plus révèle que 71% d'entre eux ont déjà eu à faire des crises d'anxiété et de panique. Plus inquiétant encore, 68,5% auraient vécu une dépression. Un constat amer pour Help Musicians UK, une association œuvrant pour le bien des musiciens et commanditaire de l'étude. Ces problèmes psychologiques sont dus à plusieurs critères. Les soucis financiers sont, étant donné la précarité de l'emploi, l'inquiétude première des musiciens. Pour faire carrière, il est nécessaire d'être touche à tout, d'essayer de travailler continuellement et par conséquent réduire les pauses au maximum. Les mauvaises conditions de travail liées à l'isolement sont également mises en avant. Tout le monde n'est pas capable de supporter la critique en étant livré à soi-même, comme l'exige régulièrement le milieu, pour composer ou répéter. Une situation qui déborde souvent sur les relations qu'entretiennent les musiciens avec leur famille, leurs amis et même avec leurs collègues. Mm-hmm. La pression peut être source de tension qui souvent isole davantage les artistes. À la lecture de ces conclusions, l'organisme dont j'ai parlé tantôt, HMUK, a décidé de mettre en place trois mesures visant à aider ces personnes. Ainsi, la création d'un groupe de travail sur la santé mentale de l'industrie musicale est prévue. De quoi ça va avoir l'air, on n'a aucune idée, mais bon. Des partenaires et autres intervenants vont aider à établir un code de pratique exemplaire et devoirs de diligence dans l'industrie, peut-on lire sur le site. La seconde mesure consiste à fournir un service de soutien à l'échelle nationale, un nouveau service de santé mentale unique en son genre qui sera lancé en décembre 2017 et qui sera conçu, et défini en partenariat avec l'industrie. Enfin, HMUK s'engage à plaider pour le changement dans l'industrie. Ça, c'est plutôt vague. Le but est d'attirer l'attention. Le but est d'attirer l'attention du Royaume-Uni afin d'obtenir des partenaires et des collaborations. Voilà.
Espérons que ça pourra vraiment améliorer les choses. Alors Serge, vous allez nous parler de la marche des femmes dans l'histoire.
Exactement, c'était dans la presse de lundi suite à l'élection de Valérie Plante à Montréal. Alors, c'est un article de Pierre-André Normandin qui cite les dates, les principales dates de l'évolution
des droits des femmes en
politique. Oui. Alors on remonte à... Risqueriez-vous une date?
La première fois qu'on a obtenu des droits?
Ouais. Non, pour le vote.
OK, pour le vote, ça a été... On a perdu puis on a regagné, hein, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Vous en avez... À un moment donné, ils en ont donné.
Au 18e, 19e siècle?
Oui. La conquête anglaise. En 1791, les femmes... Bon, attention, les femmes uniquement propriétaires, là, OK? Mm-hmm. Femmes propriétaires du Bas-Canada, le Québec. Et non,
mais c'était la même
Canada.
Chose pour les hommes, c'était seulement les propriétaires qui avaient
exactement.
Le droit de vote de toute façon.
Oui.
Pendant longtemps.
Ah oui, dans les même le premier pays qui a voté, c'est l'Angleterre, je pense, à cause de la grande charte constitutionnelle. Là. Et c'était les propriétaires qui votaient. Le vote universel est venu assez tard.
C'est une façon pour les riches de garder le pouvoir et par extension, pendant longtemps, pour les anglophones aussi, de garder...
Au Canada, oui.
Quand on regarde
le pourcentage de personnes qui votent aujourd'hui...
Donc, en 1791, les femmes propriétaires du Bas-Canada obtiennent le droit de vote. Ensuite, on s'en va en 1849, on retire le droit de vote aux femmes.
C'est l'heure de parcours.
60...
Est-ce qu'on nous dit pourquoi?
Non, on ne le dit pas. C'était...
Juste qu'on s'est rendu compte, il y avait le droit de vote. Mm-hmm. Ouais. On s'en était pas rendu compte, on va leur enlever.
1849, on est dans l'acte d'union, je pense, là. Après les troubles de... je pense que là, ça a probablement un rapport avec ça.
C'était pas longtemps après la rébellion, en tout cas.
Oui, c'est 37, ça, oui. Ouais, c'est ça. Alors, ensuite, on va à 1887. Bon, les femmes non mariées et les veuves qui sont propriétaires, voilà.
OK.
Femmes non mariées et veuves qui sont propriétaires.
Donc, autrement dit, s'il y avait un homme qui était propriétaire, c'est lui qui votait.
Oui. Alors, elles obtiennent le droit de vote aux élections municipales.
Ah, municipales
du Québec. Oui, municipales. Oui, on est toujours dans le municipal. Là. 1899, les femmes non mariées et veuves qui sont locataires.
Non mariées et veuves. Ah, tu dis pas les mêmes.
Non, non, le mari, excuse-moi, oui. La façon que c'est écrit, ils auraient dû marquer, eh bien, c'est de virgule.
Les femmes non mariées et les femmes veuves.
Les femmes non mariées et également les femmes veuves qui sont locataires obtiennent aussi le droit de vote aux élections municipales.
Ah, OK.
Mais
donc, toutes les femmes,
est-ce que le mari de la veuve...
Ou si elle était mariée, non, ça, elle avait non, toujours pas le droit.
Non, 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 c'est à son mari.
Ah oui, OK.
Ben oui, c'est à son mari à ce moment-là. Si une femme était non mariée, était assez... Ben, il...
C'était un vote par famille,
Oui, ben c'est ça, oui.
Oui,
oui, oui.
OK.
1922, les femmes de l'ensemble du Canada, à l'exception du Québec, obtiennent le droit de vote.
À l'exception du Québec.
Oui, parce que nous, c'est en 19...
Oui, oui, oui.
Je gâcherai pas le punch.
En 1934, bon, les femmes mariées obtiennent le droit de vote aux élections municipales du Québec.
En 1934, okay.
Au municipal
du
Québec.
Donc, on a encore une fois eu droit au municipal avant de se rendre au provincial.
Sauf que, qui donnait le droit de vote au municipal? C'était la municipalité qui vote un règlement ou c'était le gouvernement du Québec? Ça qu'on ne dit pas ici, malheureusement, là. Petite question.
Ben, ça devait être au niveau municipal que c'était décidé, parce
je
que
sais
sinon,
pas.
Ça n'aurait pas de logique.
Parfois.
Je ne sais pas. Mais pendant ce temps-là, depuis 1918, que vous aviez dit, ou 17 pour au Canada?
1922,
excusez-moi, ouais. Parce que oui, ça, c'était après la guerre. Donc, on avait le droit de voter au fédéral si on était au Québec, mais pas au provincial.
Pas au provincial, oui. Ouais, okay. Ouais, ouais. Mm-hmm. 1940, élection de la première femme au conseil municipal de Montréal, Jessie Kathleen Fisher.
Ah, donc ouais. 40.
1940.
C'est peut-être ça qui a inspiré.
Durant la Deuxième Guerre mondiale. Mm. 1961.
Oui.
Élection de la première femme députée à l'Assemblée nationale, qui est...
Vous avez dit tantôt.
Marie Kirkland
oui.
Casgrain.
Oui, c'est ça, j'allais dire Casgrain.
Oui. Est-ce que j'ai rencontré un nom pour le...
Vous avez...
Non, je pense
son, non. Le bail, c'est ça. C'est qu'elle était d'un comté dans la région de Montréal et elle devait aller siéger à Québec. Donc, elle ne peut pas faire ça, les retours tous les jours, là. D'autant plus qu'elle est devenue ministre à un moment donné. Alors, il fallait qu'elle se loue un appartement. Et quand il est question venue de, quand il est, la question est venue de signer le bail auprès du propriétaire,
le
propriétaire lui a dit « ça me prend la signature de votre mari ».
Ouais, mais là, vous n'avez toujours pas dit qu'on avait le droit de voter au Québec, là?
Non,
pas encore.
Vous n'avez toujours pas dit ça? Il me semble que c'était avant, mais...
Ah, excusez-moi, en 1940...
Ah, oui,
okay. OK. Ah, c'est parce qu'il y avait deux 40, ici, ça m'a mélangé.
Ah,
en 40, élection de la première femme au conseil municipal, Jessie Kathleen Fisher, et également,
okay.
Les femmes obtiennent le droit de vote aux élections provinciales du Québec. Merci, j'avais passé cette
pas
date-là.
Problème.
1978, Hazel McCallion est élue pour la première fois mairesse de Mississauga, poste qu'elle occupera sans interruption jusqu'en 2014, à l'âge de, tenez-vous bien, 93 ans.
OK, donc de 78 à 94, à 2000, attends, 2014?
Oui, 78 à 2014, à l'âge de 93 ans.
Elle devait bien faire son travail.
Oui, il l'aimait beaucoup.
Mais donc ça, c'était la première mairesse d'une ville au Canada, j'imagine,
ouais,
si
au
on
Canada.
Souligne.
Oui, oui, oui.
Okay.
Donc pendant combien d'années?
Bien, 78 à 2014, ça fait quoi?
Je ne peux pas vraiment calculer,
moi. 14 plus 22. 14 plus 22, ça fait... 36. Aïe, aïe, donc,
non, c'est beaucoup. Ses parents devaient être fiers d'elle.
Ah oui, je comprends.
C'est un...
En 1990, Léa Cousineau devient la première femme nommée présidente du comité exécutif de Montréal.
Ah, en... d'accord, oui.
En 1991, Toronto élit sa première femme à la mairie, June Rollins, à Toronto. En 1993, Kim Campbell devient la première et unique à ce jour femme première ministre du Canada.
Ouais, pas longtemps.
Oui, mais pas élue, c'est
ben
ça.
Ouais, ouais, quelques mois.
Ouais.
En 2005, il y a une ville au Québec qui élit une femme. Vous vous rappelez-vous?
2005,
un personnage très coloré.
À Québec?
Oui, à Québec.
Ah oui, mon Dieu, celle qui est décédée, mais c'est quoi son
ouais,
nom?
Oui, Madame Boucher.
Boucher.
André Boucher.
Oui, c'est ça.
Oui, oui, oui. Et en 2012, ben, c'est la première femme à devenir première ministre du Québec, Madame?
Pauline Marois.
Pauline Marois. Mmh. Ouais. Et voilà, qui termine le palmarès. Et évidemment, on aurait... la première femme mairesse de Montréal,
2017.
Valérie Plante.
Oui, alors, on était en retard sur le reste du Canada quand même.
Oui, beaucoup,
mais
beaucoup.
Maintenant, on a rattrapé ce retard. Mm-hmm. Mais c'est, évidemment, on parle de Montréal, mais au Québec, on avait plusieurs villes qui, entre-temps, avaient des femmes qui avaient été élues maires. Bien, c'est ainsi que, à moins que vous ayez une dernière toute
oui,
petite
Victor
citation.
Hugo. Allez-y. Oh, je l'aime assez. C'est une triste chose de savoir que la nature parle. Et que les hommes n'écoutent pas.
Ah.
Elle est bonne, celle-là.
Et sur ces sages paroles de Victor Hugo, on se dit au revoir jusqu'à la semaine prochaine. Daniel Lachance, Serge Bradet, moi-même, Isabelle Falardeau, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde. Notre public qui nous écoute fidèlement chaque semaine, merci beaucoup d'être là. Et on vous retrouve la semaine prochaine.
Bonne semaine.
Bye.